Radio Campus Paris présente la séance du dimanche par Vitamine Ciné. Au programme aujourd'hui, un film dans un film dans un film dans un film dans un film. Bonsoir et bienvenue dans la séance du dimanche. Pour cette 11e émission, nous avons décidé de nous plonger dans un univers où l'absurde règne en maître, où le réel auquel nous sommes habitués n'a pas lieu d'être, et dans lequel la réalité n'est qu'une petite fille qui découvre une cassette dans les entrailles d'un sanglier. Pour cette plongée dans la tête du très productif et singulier Quentin Dupieux, l'équipe de Vitamine Ciné est présente au complet, et je vais vous la présenter sans parler, sans tarder, et sans grande logique non plus. S'il était un genre cinématographique, il serait la comédie musicale, c'est lui-même qui le dit. Et pourtant, cela ne l'empêche pas d'apprécier le bon gros rap. C'est un peu comme si Fianso jouait dans un remake du Magicien d'Oz. Et pourquoi pas après tout, le L, c'est le S. Bonsoir Louis.
Mais quelle présentation, bonsoir Nico.
Vient ensuite une personne qui aime autant la vie parisienne que la vie narbonnaise. Et après tout, pourquoi pas, elle aime Alain René et la bande dessinée. Rien d'étonnant quand on sait que le cinéaste était admirateur de Stan Lee et des comics en général d'ailleurs. Elle aime aussi l'Eurovision et Martin Scorsese. Bonsoir Adeline.
Je crois que Louis aussi, il aime beaucoup l'Eurovision. Bisous.
Enfin, il a aimé Ils sont partout d'Ivan Attal, mais pas Blade Runner de Ridley Scott. Il glisse des scènes de Clouseau dans des clips de rap qu'il réalise. Et après avoir découvert Le Dain de Quentin Dupieux à la quinzaine des réalisateurs, il a osé conclure sa critique par 100% dain, 100% dingue. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Et on n'oublie pas non plus Victor à la technique, qui brille en régie comme dans son podcast Caca dans les draps. Que l'on vous recommande évidemment. Bonsoir Victor.
Bonsoir, par contre c'est caca sur les draps, c'est un peu plus intellectuel que ça, il n'y a pas de souci.
Et donc le film de Quentin Dupieux, Réalité, avait été tiré au sort lors d'une précédente émission, parmi des films que nous avions proposés, et c'était encore une fois le choix de Louis qui était sorti du lot. Nous allons donc essayer de comprendre le film, et par extension de comprendre un peu le cinéma de Quentin Dupieux, et je pense évidemment que nous allons déclarer notre admiration envers l'acteur principal, Alain Chabat. Nous allons aussi jouer à un jeu qui, je crois, sera un peu nouveau. J'espère que ça sera aussi brillant que le Burger Quiz, en tout cas, je n'en doute pas. Bienvenue dans la séance du dimanche. Et pour commencer, nous allons décider d'ouvrir l'émission en discutant de quelques films disponibles sur le site d'Arte, puisqu'après tout, on a la chance d'avoir une super programmation sur une chaîne qui appartient au service public. Et on y retrouve notamment une partie de la filmographie du cinéaste Emmanuel Mouret, ce que je te laisse présenter, Lucas, juste après un extrait de Changement d'adresse.
Ah, mais vous êtes musicien ?
Oui.
Ah, ça c'est très bien. Ça c'est vraiment bien.
Ah bon ?
Oui, ça va beaucoup plaire à mon ami.
Ah, il aime le corps ?
Oui, oui, je crois que ça l'intéresse beaucoup, oui. Mais le corps, exactement, ça ressemble à quoi ?
Oh, ben vous savez, même si tous les corps sont identiques, ils ne se ressemblent néanmoins pas.
Ah bon ? Et le vôtre, il est comment ?
Eh bien, il est... Si ça vous intéresse, le mieux, ça serait que je puisse vous le montrer.
Oh oui, oui, j'adorerais.
Ben vous verrez, il est pas mal, hein. Je dois même dire que j'en suis assez fier et qu'il fait certains envieux auprès de mes confrères. Néanmoins, pour en venir à votre ami, que voudrait-il savoir de moi pour qu'il soit vraiment rassuré ?
Laissez-moi réfléchir. Non, 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 vous m'en avez assez dit. Je crois que ça suffira.
Donc un dialogue tout en quiproquo qui représente, je pense, assez bien le cinéma de Mouret. Donc Lucas, je te laisse nous présenter un peu ce cinéaste.
Ouais. Moi, c'est un cinéaste, Emmanuel Mouret, que j'ai découvert l'année dernière. Entre les deux confinements, je suis rentré dans une salle de cinéma un peu au hasard, voir les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui depuis a récolté 13 nominations au César. Et j'avais vraiment adoré ce film, sans m'y attendre du tout. Et donc, c'était donc avec grande joie que j'ai appris que Arte proposait une grande partie de ses films sur sa plateforme. Et donc, je m'y suis attelé. Et c'est vraiment du marivaudage assumé et poussé un peu à l'extrême. Donc on a des amours un peu hasardeux, c'est drôle, c'est touchant, c'est très gênant parfois, mais on aime être gêné devant ces persos, ces personnages qui savent pas trop quoi faire. Ça me fait un peu penser à du Woody Allen, mais pas forcément dans les thèmes et dans la mise en scène, quoique il y a quand même des ressemblances, mais plus dans la recette, parce que Woody Allen, il a une recette et il la met dans chacun de ses films et ça marche quasiment tout le temps. L'Amouret, c'est pareil, il a sa recette, il a ses personnages très hors sol qui sait très bien écrire et qui met en scène entre eux. Là, t'as mis un extrait de Changement d'adresse avec Frédéric Bell qui excelle pour jouer la cruche. Hein. Elle est vraiment très forte pour ça. Donc voilà, c'est vraiment un cinéaste qui fait des films doux, mignons, c'est trop agréable à suivre. Et donc je vous recommande évidemment Changement d'adresse qu'on a entendu avec un Danny Briand
excellent.
Flamboyant, mais c'est Danny Briand, c'est normal. Il y a aussi Un baiser s'il vous plaît ou Fais-moi plaisir encore une fois
avec Danny Briand. Voilà. Et donc les amis, vous avez vu Louis, est-ce que tu as vu d'autres films d'Emmanuel Mouret? Est-ce que tu connais Emmanuel Mouret?
Eh bah pas du tout, mais ça me donne bien envie du coup et
d'ailleurs,
je vais en profiter pour regarder. Ouais,
ces films sont disponibles sur la plateforme d'Arte jusqu'à mi-juin.
Il oui, y a le temps.
Il y a le temps. Et toi, Adeline, je crois que c'est un cinéaste que tu affectionnes.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Lucas, par rapport au fait que tu le compares à Woody Allen. D'ailleurs, on pourrait le comparer sur d'autres points, puisque c'est aussi un réalisateur-acteur qui se met en scène dans ses propres films, comme Woody Allen.
Qui est excellent en tant qu'acteur aussi.
Et c'est un très bon acteur. En fait, moi, je ne savais pas au début qu'il était réalisateur. En fait, je l'ai connu il y a longtemps. Quand je pense que j'étais ado, et en fait j'avais adoré ses films, et ça m'avait vraiment intéressé de le retrouver sur Arte en ce moment, parce que je pense que c'est un genre de film qu'on retrouve plus vraiment dans le cinéma français en ce moment, un genre de comédie qui est assez à part entre, pas vraiment l'absurde, mais un peu burlesque, enfin je trouve que c'est assez inédit. Et en même temps, c'est un film qui est plein de nostalgie. Alors, on peut en parler, mais c'est assez rigolo quand on voit les dates de sortie, c'est 2000. Alors qu'en fait, dans mes souvenirs vraiment 2000, les plus profonds, je pensais que c'était dans les années 80 que les films étaient sortis, parce que c'est des films qui sont hors sol, un peu hors du temps, qui sont pas marqués en fait par une temporalité précise. On ressent une époque parisienne qui n'est plus la nôtre actuelle, mais pour autant, on pourrait pas dire si le film a été fait dans la fin des années 80 ou dans la fin des années 90. Je pense que ça se perd entre ces 20 années-là. Et je trouve que c'est des films qui sont touchants et qui parlent de l'amour de manière très passionnée et très intéressante.
C'est ça, parce que c'est très parisien, soit comme film, très français. Et pourtant, donc j'ai vu trois films sur tes conseils, Lucas. Et pourtant, Mouret, il arrive toujours à développer un univers qui est à lui, avec des thèmes très simples. Et au final, au bout de quelques films qu'on voit, on arrive à voir que c'est un Mouret, en fait. C'est jamais des très grands films, c'est pas des chefs-d'œuvre, et je pense qu'ils ne se revendiquent pas comme faisant des chefs-d'œuvre. Et pourtant, oui, c'est des petites pépites, des petites madeleines agréables à regarder. Je pense que ça fait du bien.
Et son dernier, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, s'éloigne un peu de Paris. Il y a la moitié qui se passe à Paris et l'autre en province, je sais plus où, mais avec des plans magnifiques. C'est bien aussi parfois de mettre la province française en valeur, parce que il y a des choses magnifiques. Et là, pour le coup, ce film, c'est vraiment la recette absolue de Mouret, quoi. Il y a tout. Et à mon avis, ça va faire carton plein au César avec Adolescente.
Et si jamais vous êtes fan de la filmographie de Mouret, je vous conseille de regarder les films de Fitoussi. Alors, je sais pas son prénom, mais
Marc.
Je suis pas sûre. Je pense que c'est son frère. Enfin, il y a deux Fitoussi. Voilà, il y a deux réalisateurs qui s'appellent Fitoussi, donc un des deux. Mais en fait, il fait un peu le même genre de cinéma, un peu dans l'absurde, etc. Il réalise plus trop en ce moment. Je crois que c'est le frère de Marc Fitoussi. Sans vouloir m'avancer, mais voilà, je vous conseille.
Est-ce que vous avez vu d'autres films sur la plateforme d'Arte TV qu'on peut recommander à nos auditeurs?
Actuellement non, mais on peut voir. Enfin, il y a beaucoup de rétrospectives en ce moment, notamment. Je pense que tous ici, on est très fans de Scorsese, et il y a certains films de lui qui sont en train de ressortir. Et ils ont fait une super compile pour la Saint-Valentin, dont ils ont mis Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Et je ne sais pas si c'est encore disponible, mais voilà, il y avait une super programmation pour la Saint-Valentin, et voilà, je pense que ça change et c'était chouette.
Bah d'ailleurs, signalons aussi la présence de Plein Sud de Sébastien Lifshitz, dont on avait encensé la petite fille et adolescente, qui font partie de notre palmarès des meilleurs films de l'année dernière. On retrouve aussi deux films de Hong Sang-soo, ou encore Anna Atan de Joseph von Sternberg. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui, j'ai l'impression, est un peu redécouvert en ce moment, et qui a acquis peu à peu un rang de classique du cinéma. Donc on en parlait de cinéma absurde avec Mouret, et on va rentrer dans un autre univers, un autre type d'absurde, puisque le film du mois, c'est Réalité de Quentin Dupieux. Donc on va commencer le débat, bien sûr, avec un petit trailer, comme d'habitude.
Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
Gémissement numéro 45.
Are you the old person that lives in this house?
Yes.
Why should I give a shit?
We need to talk. I think we're the same person.
Je suis en train de perdre les pédales, là.
Il y a quoi sur cette putain de cassette? On aimerait savoir.
Give me the tape or I'm gonna call your parents.
Then I'll tell everyone you dress up like a woman.
Je veux un Oscar pour ce gémissement, Jason, tu m'entends?
Jason tentera.
Qu'est-ce que tu dis de ça?
Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège.
Tu crois que Kubrick s'enregistrait des heures comme ça, comme un con?
Eh, hey, Kubrick mes couilles.
Et après tant de poésie, c'est encore une fois à toi, Louis, que je pose la question. Pourquoi avoir choisi ce film?
Eh bah, ben, tout d'abord parce que je voulais nous ramener un petit peu en France, donc c'était la bonne occasion. Et puis parce que je trouve que réalité, c'est une bonne porte d'entrée vers un thème qui m'intéresse et deux figures que j'aime bien. Ce thème, c'est celui de l'absurde. Et ces deux figures, ce sont celles de Quentin Dupieux et d'Alain Chabat dans le rôle de Jason Tantra dans ce film.
Et comme pour Blade Runner, je vais aussi vous poser la question... Quand avez-vous découvert Réalité? Donc toi, Louis, est-ce que tu l'as vu au cinéma? Est-ce que tu l'as vu
alors,
chez toi?
Non, je ne l'ai pas vu au cinéma. J'ai découvert Quentin Dupieux au cinéma, mais c'était en 2017 avec Au Poste. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé qu'il y avait un style très particulier qui me parlait vraiment beaucoup. En rentrant chez moi, j'avais eu envie de creuser sa filmographie. Et c'est là que j'ai découvert Réalité et d'autres films de Dupieux.
Et toi, Lucas, tu l'as vu il y a combien de temps au cinéma?
J'ai dû le voir, non pas au cinéma, mais j'ai dû le voir il y a 3 ans, et j'ai fait le choix délibéré de ne pas le revoir pour l'émission, tout simplement parce que j'avais peur d'être déçu. C'est un film que j'adore vraiment, et je le montrerai tout à l'heure. Mais je voulais pas être déçu parce que pour moi, c'est vraiment le film typique où on te propose voilà, un voyage pendant, je sais pas, il dure 1h30 peut-être, une sorte de rêve halluciné, et qui pour moi ne se vit qu'une fois. Et j'avais trop peur d'être déçu à la suite, mais bon, je me souviens quand même de ce qui se passe, donc je pourrais en parler.
Je me permets de rebondir, parce que justement, moi, je l'avais découvert au ciné, c'était une expérience assez exceptionnelle. J'avais vu avec mon père, qui ne connaissait pas du tout le cinéma de Quentin Dupieux, et qui m'a dit que c'est très baroque, et je le comprends, car c'est assez déstabilisant, quoi, quand on ne connaît pas l'univers de Dupieux. C'est un film que j'avais revu un an plus tard, donc vers 2016, et que là encore, j'ai revu une troisième fois. C'est vrai qu'à chaque visionnage, j'ai un peu un regard différent. La toute première fois, je l'avais adoré. Pour moi, c'était incroyable. Et là, je vois un peu plus les limites après avoir vu d'autres Dupieux qui sont sortis entre temps. J'en vois les limites, mais c'est toujours quand même un film que je trouve très très intéressant et très agréable à voir. Et toi, Adeline, donc, avais-tu vu Réalité avant?
Bah, c'est super intéressant ce que tu dis, Nicolas, pardon, j'ai oublié ton prénom au bout de 2 secondes d'émission. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que j'aurais aimé le voir au cinéma. Je ne l'ai pas vu au cinéma. Comme pour Blade Runner, je l'ai vu pour les besoins de l'émission. Peut-être que je regarde aucun film. Et oui, en fait, je pense que peut-être que si je l'avais vu au cinéma, j'aurais apprécié le film parce que j'aurais été happée par l'histoire et du coup, un peu le côté d'être obligée de regarder et d'obliger de... Enfin, on avait vu Ensemble d'un au cinéma. C'était toi qui m'avais poussé à voir le Dain parce que je suis très...
Après l'avoir vu avec Lucas, je tiens à dire.
Ouais, mais je suis très réticente, j'étais très réticente à la filmographie de Quentin Dupieux et du coup, je pense que peut-être que Réalité, j'aurais dû le voir au cinéma. Ce serait vraiment dommage que des salles soient fermées en ce moment, mais voilà, je pense que j'ai pas été happée par le film et aussi par sa complexité, le fait que peut-être l'absurde, c'est un truc qui est agréable parce que c'est un voyage et que moi, pour les voyages cinématographiques, j'aime être au cinéma. Et j'aime pas être devant mon écran, c'est la capacité de mon écran qui est plutôt petit, dans un appartement qui est lui-même petit, dans un scénario qui est lui-même petit, je sais pas, ça m'a énervé, voilà.
Et donc toi t'as découvert Cinéma Dupieux avec le Dain, donc je vous pose aussi la question, c'est quoi vous, votre rapport au cinéma de Dupieux? Donc Louis, t'as vu tous ces autres films après avoir vu Réalité?
Tous, mais à quelques exceptions près, j'en ai vu 5-6. Il a une filmographie qui est encore assez courte encore. Il continue à en sortir régulièrement. D'ailleurs, j'attends avec impatience que Mandibule puisse enfin être visible. Mais mon rapport au cinéma Dupieux, comme tu l'as très bien dit toi, t'as employé le mot expérience. Et je crois que c'est un cinéma d'expérience. À chaque fois, c'est des expériences de cinéma. Moi, j'adore parce que j'adore l'absurde. Comme dit Adeline aussi, c'est un voyage. J'aime bien faire ce voyage à chaque fois, ne pas avoir de but, ne pas avoir de regarder comme ça pour le simple plaisir presque de regarder. Et à chaque fois, tous ces films, moi, ce que j'aime, c'est que, en tout cas, la plupart, ce sont des mises en abîme. Ils parlent de cinéma. Il met beaucoup de lui, et moi j'aime quand un réalisateur nous parle de son art, nous parle de lui, et nous parle de cinéma, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime.
Et toi, Lucas, t'as vu quoi d'autres films comme...
Je crois qu'il n'y a que son premier non-film, qui s'appelle Non-film, que j'ai pas vu. Mais ouais, moi c'est un cinéaste que j'adore, j'aime bien son côté un peu branleur, je fais ce que je veux et puis je vous emmerde. Et tu relevais à juste titre les mises en abîme, le côté un peu méta où on parle de cinéma dans un film de cinéma. Et moi, il y a une autre constante un peu que j'ai vue dans ces films et qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la recherche un peu obsessionnelle. Dans Le Dain, c'est Dujardin qui cherche absolument une tenue 100% Dain. Dans Wrong Cop, c'est Eric Judor qui veut absolument faire la musique parfaite et il devient complètement taré à cause de ça. Évidemment, dans Réalité, on l'a entendu dans la bande-annonce, Chabat qui cherche le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et j'aime bien, il aime bien les mecs cons, les mecs benets du pieu qui s'engouffrent un peu dans leurs obsessions et qui vont tout faire pour voilà, atteindre leur but complètement perché à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui me plaît aussi, c'est un humour qui me plaît.
Mais d'ailleurs, vous parlez du fait que c'est vraiment des films sur le cinéma et j'ai noté beaucoup de citations dans le film qui sont un peu méta sur le cinéma. Par exemple, du coup, c'est un producteur, enfin, il y a un des personnages principaux qui est un producteur, Bob Marshall. Et par exemple, il dit faire semblant, c'est ça le cinéma. Quand et en fait, il y a toujours ces questions, le fait que la petite fille, elle s'appelle Réalité, qu'il y a un truc un peu genre le réalisateur du film soit complètement obsédé par les choses qui font réel, etc. Et du coup, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce film, c'est vraiment des films de citations de cinéma. J'ai lu que je crois que c'est un des réalisateurs ou des choses comme ça qui s'appelle Zog.
Oui, c'est ça.
Zog, ouais.
Et du coup, qui est un hommage à Herzog.
Ah, il lui ressemble un petit peu, oui.
Petit côté allemand.
Mais pardon, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, Aline, en effet, je pense que dans ce film, moi, Dupieux, il nous présente le cinéaste, donc Zog, comme une sorte de magicien qui mène tout le monde là où il veut, là où lui l'entendait, et nous, spectateurs, ou en tout cas même les spectateurs dans le film, sont comme des enfants qui se laissent faire, qui abandonnent leur repère et qui se laissent aller à ça.
Et justement, en parlant d'être des enfants face au cinéma de Dupieux, on va entendre le réalisateur lui-même parler de son cinéma.
Pourquoi l'extraterrestre est marrant ? Aucune raison.
L'absurde, c'est un truc qui a été très présent chez moi, Bertrand Blier, Buñuel, etc. Bon, tout ça, c'est un truc qui me parle beaucoup. Les Monty Python, ils avaient ce brio de pouvoir faire tomber des moutons du plafond. Bon, je trouve ça génial, mais malgré tout, c'est un truc qui a déjà été fait et ça n'est pas complètement moi. Tous ces trucs de mise en abîme, etc., c'est un peu ma peur du vide, mais aussi mon amour du vide. Une façon de dire que tout ça ne sert à rien, je sais bien que c'est un film, je sais bien que c'est faux, et je sais bien que tout ça n'est pas réel et que c'est un jeu. Déjà, je suis pas anormal de vouloir être un enfant à 45 ans. En fait, c'est le monde qui est un peu zinzin d'expliquer aux gens, bon, t'as été un truc marrant au début, mais après, faut que tu sois chiant. C'est-à-dire que t'es grandi, il faut parler de politique, il faut t'intéresser à des trucs chiants parce que t'es grand. Non, en fait, il y a un seul truc qui est important, c'est la créativité et la légèreté de l'enfance. En fait, rigoler et fabriquer des trucs, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand moi je fais exploser un lapin, j'ai pas envie que ce soit horrible. J'ai envie que ce soit juste la fête au lapin qui explose. Mais c'est en vrai, donc en fait, je pense que les enfants peuvent comprendre mon cinéma.
Et donc, belle transition jusqu'à Réalité. Qu'est-ce que vous avez compris de Réalité ? Je vous laisse peut-être qui veut faire un pitch de ce dont parle Réalité.
Toi l'honneur, Louis, vu que c'est toi qui as proposé.
Alors, la dure tâche de pitcher Réalité, j'ai peur de trop en dire en pitchant et puis que ça n'ait pas forcément de sens. Mais disons que c'est plusieurs petites histoires ou plusieurs rêves un peu imbriqués. On a d'abord celle de Jason Tantra, donc joué par Alain Chabat, qui est un cadreur à la télévision qui propose une idée de film de science-fiction, d'horreur à un producteur qui lui dit « Ok, je signe, mais tu me donnes le meilleur cri, le meilleur gémissement même de l'histoire du cinéma. » Il y a l'histoire de Réalité, une petite fille qui découvre une cassette dans le corps d'un sanglier que son père a tué à la chasse. Et puis après, on a d'autres petites histoires qui viennent un peu s'agrémenter. Il y a celle d'un animateur d'émissions culinaires, donc dont Jason est le caméraman, il y a le proviseur d'école de réalité, et puis il y a le réalisateur Zog dont on a parlé. Et toutes ces histoires vont, plus ou moins, tous ces rêves vont plus ou moins se mêler, se démêler. Enfin,
avec plus ou moins de liens.
Après, ça devient dur de. De comprendre.
Lucas, toi, donc, du coup, toi qui n'as pas vu le film, quel souvenir en as-tu ?
C'est impossible pour moi à pitcher. Enfin. Je me souviens
non, forcément
je me souviens effectivement de tous les éléments que tu viens d'annoncer, mais en fait c'est un peu comme quand on se réveille le matin, on vient de rêver, on se souvient de certaines choses, mais c'est impossible de faire les liens entre elles. Et là, c'est exactement la même sensation devant la réalité, c'est-à-dire que c'est un super rêve qui est proposé Et ça pose la question suivante, c'est est-ce qu'on est obligé de tout comprendre pour aimer un film ? Pour moi, la réponse est évidemment non. Le réalisateur le plus représentatif de ça étant Lynch. Et il y a un peu évidemment. De Lynch, je pense, dans le cinéma Dupieux, même si c'est différent à bien d'autres niveaux. Donc moi, forcément, des films comme Mulholland Drive, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre absolus, réalité s'en rapproche, et c'est ça que j'aime. Mais c'est clairement son film le plus bordélique, parce que c'est bizarre, parce que c'est pas son film le plus absurde, mais c'est celui le plus bordélique, tu vois, Rubber, sur l'histoire d'un pneu qui tue des gens. Bon. Mais pourtant, il y a quand même une diégèse, une histoire qui est assez facile à suivre. La réalité, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La diégèse est vraiment explosée, et ce qui en fait quelque chose de très dur à narrer, en fait.
C'est ultra intéressant ce que tu dis, Lucas, par rapport à David Lynch, parce que j'avais pas du tout pensé à lui. Mais la réflexion que je me suis fait en regardant le film, c'est que c'était pas du tout rigolo. Enfin, genre, ça me faisait pas du tout rire et ça m'angoissait vraiment. Genre, et que du coup, en fait, c'était. Enfin, autant le Dain, je comprenais l'aspect comique parce que c'est un comique de répétition, style Le Malade, etc. Autant là, genre vraiment, j'étais un peu désarçonné parce que j'étais là, ça me fait pas rire.
Mais
genre,
je suis pas sûr que ce soit le but de faire rire.
Non, c'est angoissant. Et, coup, et à la limite, on rit, mais c'est
on
nerveux.
On rit, mais d'un confort.
Ouais, c'est ça. Et en parlant de. Enfin, du coup, là, le fait que t'aies parlé Lynch, en fait, ça m'a fait vraiment penser à Lost Highway. Je sais pas si vous avez déjà vu. Oui, et surtout avec le thème de la cassette, du coup. Genre vraiment, je viens de réaliser ça maintenant. Mais du coup, c'est ça, c'est que moi, ça m'a vraiment angoissé. Et comme Lost Highway m'a angoissé, et je pense que c'est un des films qui m'angoisse même maintenant, je veux pas le revoir parce que ça m'a vraiment énormément angoissé. Et du coup, voilà, je pense que. Enfin, c'est fou. J'avais pas du tout pensé, voilà.
Mais je trouve justement, ce que j'ai noté, c'est que Dupieux, je trouve qu'il brille. C'est un film qui est pas parfait, réalité, mais il brille vraiment qu'on arrive à installer un inconfort. Et dans les moments vraiment de bravoure, quoi, du film où il y a le plus d'inconfort, j'ai retrouvé la même sensation que devant des scènes chez Lynch, qui sont un peu restrictives parce qu'elles m'ont traumatisé, sans que ça soit fait forcément pour faire peur. Je pense à Inland Empire, qui m'a vraiment mis extrêmement mal. C'est un film qui m'a le plus terrifié, alors qu'il n'y a rien d'effrayant, ce n'est pas du tout un film.
Il y a quand même un sacré screamer à un moment.
Mais c'est pas le screamer derrière, forcément. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles cette scène, mais il y a des femmes qui dansent en Europe de l'Est, dans une sorte d'appartement. Et je me rappelle, j'avais vu ce film, j'étais pas très bien, j'avais vu en plus chez moi, dans ma chambre, sur mon projecteur. J'étais tout seul chez moi, je regardais dehors, il y avait la pleine lune dans ma fenêtre. Et vraiment, j'étais plongé dans cette genre d'ambiance un peu bizarre. Et c'est ça que je retrouve dans réalité. Et notamment, donc il y a deux scènes, je trouve, qui sortent du lot, peut-être que vous avez les mêmes. Une des deux scènes, c'est évidemment le rêve avec Michel Hazanavicius, qui vient remettre un Oscar à Alain Chabat. Et le fait qu'il y ait cette musique inquiétante, qu'on n'entende pas les sons d'applaudissements, et le petit, Alain Chabat joue vraiment parfaitement le petit cri de « je peux pas me lever, je peux pas bouger », je trouve que vraiment ça capte le rêve dans ce qu'il y a de plus inquiétant.
Et là où il est fort, c'est qu'en fait, dans son écriture, il veut presque nous faire dire qu'il y a quelque chose à comprendre. On cherche, parce qu'il y a une construction malgré tout, et finalement qui ne mène nulle part. Et c'est ça qui nous mène à l'inconfort, c'est qu'il y a des éléments qui se lient et qui nous font nous creuser la tête et nous dire on va chercher, il y a un truc à comprendre, alors qu'au final, il n'y a rien à comprendre.
C'est ça qui est forcé.
Mais il nous crée la démarche, en fait, pour rien. Et c'est ça qui crée l'inconfort pour moi.
Mais après, en plus, l'inconfort, et tu l'as dit, Nicolas, il est aussi créé par la musique.
Elle est magnifique.
Parce qu'il faut parler un peu du fait que le compositeur, c'est Philip Glass. C'est un compositeur qui est assez connu. Il a fait des films, il a fait la musique de films de Kundum, par exemple, de Martin Scorsese, celui qui a réalisé. Et en fait, il est connu pour des musiques très simples, très entêtantes, pour des films très entêtants.
Répétitives.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, même sur ça, Quentin Dupieux, il a utilisé que les 5 premières secondes d'une des compositions de Philip Glass, qu'il répète à l'infini. Donc déjà, c'est un compositeur qui a des musiques entêtantes, et en plus il rajoute le fait qu'il n'utilise que le début.
Je sais pas s'il utilise que le début, parce que vraiment, j'ai déjà écouté cette musique en entier qui dure une heure, qui s'appelle Music with Standing Part, et c'est marrant parce que si on l'écoute tout du long, on a du mal à s'en rendre compte, mais si on zappe vraiment du début à la fin, on voit qu'il y a vraiment un changement il y a une grosse différence. Et c'est vrai que c'est vraiment génial d'avoir utilisé Philip Glass, parce que dans ses autres films, souvent, Quentin Dupieux, on l'a pas encore dit, mais il est aussi connu sous le nom de Monsieur Oiseau. C'est un compositeur de techno ou d'électro.
Il a commencé par là, d'ailleurs. C'est ça, il a commencé par la musique.
Avec Michel Gondry. En fait, il était avec Michel Gondry, qui est du coup un réalisateur, qui a réalisé les clips. Et du coup, ils bossaient ensemble, et c'est comme ça après qu'il arrive à la techno.
Et du coup, je trouve que c'est bien qu'il n'ait pas mis sa musique à lui, mais qu'il ait mis cette musique de Philip Glass très inquiétante. Je ne sais pas si vous avez vu Koyaanisqatsi.
Oui.
Qui est vrai que c'est lui. Avec cette. Pareil, c'est un film qui dure une heure et demie, où c'est que des images sans. Enfin, c'est ni un documentaire, ni. Enfin,
ouais, c'est un documentaire.
Mais il n'y a pas de protagoniste ou quoi, c'est juste des images de la société de consommation. avec une musique de Philip Glass du début à la fin, contrairement à réalité où il y a que, enfin quand même un quart d'heure avec Philip Glass, c'est génial, mais là c'est pareil, c'est avec une grosse voix qui dit Koya Niskati, et je pense qu'il s'est inspiré de ça évidemment pour réalité. Et est-ce que vous avez des scènes qui vous ont particulièrement marqué dans réalité, qui sortent du lot parmi ses rêves?
Bah moi du coup je me souviens effectivement de cette scène incroyable où il est dans un public avec des mannequins autour qui n'ont pas de visage, et ouais c'est ça que j'avais pas pensé, mais c'est vraiment typique du rêve où t'arrives pas à bouger, ça fait un peu penser à la paralysie du sommeil et tout ça. Et bah évidemment ce dernier plan où sans spoiler on vient briser le quatrième mur et qui remet un peu tout le film en cause, c'est vraiment les deux scènes qui m'ont marqué. Ouais.
Je suis d'accord avec Lucas, moi c'est ce dernier plan et cette réplique. Je sais pas trop si je peux la dire, si c'est du spoil ou pas.
Je pense que spoiler ce film, c'est pas spoiler, très...
Non, mais du coup, donc la réplique, c'est ouais, c'est une crise d'eczéma, mais à l'intérieur de votre tête. Et en effet, ça nous démange à l'intérieur de notre tête. Alors, il n'y a rien en apparence, mais ça nous démange, ça nous gratte. Et je pense que c'est très représentatif et ça résume bien le film.
Et toi, Adeline, qui a un peu moins aimé, je pense, le film que nous tous, est-ce qu'il y a une scène qui t'a particulièrement marqué?
Bah bien sûr, la scène de cinéma. En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans un film classique, on aurait tendance à montrer des mannequins qui le retiennent, ou en fait, le fait qu'on le retienne. Et en fait, là, c'est lui tout seul qui est collé. Et ça, j'ai trouvé ça assez inédit. Après, j'ai aimé l'autre scène du cinéma. La scène où il se rend compte que son film a déjà été fait. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment bien aimé ce moment, dans le sens où il y a un peu un truc... Alors après, moi, c'est vraiment ma phobie que quelqu'un intervienne dans un film. Genre, à chaque fois que je vais voir des films un peu d'horreur ou des trucs comme ça, j'ai toujours peur que quelqu'un fasse quelque chose d'absurde comme ça. Et là, ça m'a vraiment marqué parce que je trouvais ça intéressant, le fait que son film se soit déjà fait et qu'il soit insatisfait. Et que ce soit pas le côté on m'a volé mon idée ou un truc comme ça, c'est le côté en plus le cri est pourri.
Il est nul.
En plus, il est nul. Et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment adoré ce moment. Et après, j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec le producteur.
Oui, merci. C'est là que j'ai essayé de vous
emmener
là-dessus. Voilà, bah après, l'acteur est génial, mais je sais pas pourquoi. Même la scène où il shoot des surfeurs, je sais pas pourquoi. Mais les dialogues qu'il a avec lui, je trouvais que c'était vraiment ultra drôle. Enfin, ultra intéressant parce qu'à chaque fois c'est un peu méta. C'est
surtout, il n'y a pas de sens et ça dure beaucoup trop longtemps. Parce que j'en étais pas rendu compte. J'avais adoré cette scène dès le début. Parce que, donc, pour un peu décrire la scène aux gens qui n'ont pas vu le film, c'est une scène qui dure 10 minutes pendant laquelle Alain Chabat parle à son producteur et le producteur est toujours gêné par un truc. Il demande de fumer, après il lui dit arrête de fumer, tu fumes n'importe comment. Après il sort, après il re-rentre. Et c'est une scène qui est interminable. Et c'est génial parce que juste avant, ce que j'avais pas capté de suite, la première fois que j'avais vu le film, c'est que juste avant, il regarde la projection d'un film de Zog, justement, et le producteur dit à Zog, mais c'est beaucoup trop long cette scène, tu dépenses beaucoup d'argent, ça ne sert à rien de filmer avec autant de temps. Et après, tu as 10 minutes de rien, en fait, de vide, et il filme super bien le vide.
Oui, non, c'est vrai qu'en fait, les absences et le fait que, la lenteur de certains trucs, moi par exemple, il faut savoir que je savais pas du tout de quoi parler le film, que j'ai lancé le film et j'étais là. Ça va du tout, le film il est en anglais, je comprenais pas. Et en fait, toute cette partie, alors j'ai noté que jusqu'à 55 secondes, il y a toujours réalité qui est écrit sur l'écran. Et en fait, j'ai trouvé tout le truc sur l'enfant réalité, c'était affreux. Enfin, pour moi, c'était vraiment, je pense, le moment le plus affreux parce que. Et alors, le mec qui se gratte aussi, parce que vraiment, je pense que pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas du tout l'absurde. C'est le truc de réalité moi j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a sur la cassette. En fait, c'est ça qui est horrible.
On le sait.
Oui. Mais vraiment, pendant tout le film, je suis là. En fait, revenez sur ce film-là parce que moi ça m'intéresse vraiment. Et pareil sur ce mec qui se gratte, pourquoi il se gratte, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dans ce film et sur la lenteur. À la fin, quand il va le voir et qu'il lui dit je pense que nous sommes la même personne et que. Ça en reste là, et du coup, je dis non, mais j'ai vraiment envie de savoir.
C'est que ça a marché, du coup, de ce que tu dis, c'est que ça a marché sur toi. Hein.
Oui, c'est ça. C'est
mission réussie pour.
Mais c'est juste que, oui, en fait, ça marche.
Il t'a fait te poser des questions alors que.
Oui, c'est ça, mais pour autant, en fait, je pense que pour les personnes qui. Moi, je pense que j'ai un rapport un peu autistique à l'absurde. C'est-à-dire que je veux briser le fait que ce soit absurde et vouloir comprendre. Et c'est pour ça que j'avais bien aimé le Dimbe, et comme tu l'as dit, Lucas, c'est parce qu'il y a un scénario qui. Est à peu près cohérent, et du coup tu vas...
C'est pas cohérent, c'est juste compréhensible. Je trouve le scénario de réalité cohérent, c'est juste qu'il est incompréhensible, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quoi.
Mais je sais pas, je trouve que ça fonctionne sur quelque chose qui ne me plaît pas, enfin, intrinsèquement. Et alors, c'est très rigolo parce que, pour l'anecdote, Jean-Marc et Hélène Boulard, mes parents, ont regardé Le Dain il y a 2 semaines et m'ont appelé pour en parler. Genre, ils étaient oui, on a regardé ce film que tu es allé voir au cinéma. Et genre, mon père était, j'ai pas compris, c'était nul, c'était vraiment trop nul et tout. Et du coup, genre, j'ai essayé de leur expliquer pourquoi ils avaient pas aimé. Et je trouve que, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à préparer cette émission, c'est qu'en fait, on sait pas non plus pourquoi on n'a pas aimé quand on n'a pas aimé. C'est très étrange, c'est que ça fait une réaction dans son corps, mais on sait pas vraiment pourquoi. Enfin, je sais pas si...
Oui, mais du coup, pour un peu finir sur le Dupieux en général en tant que figure, quel autre film de Dupieux vous recommanderez pour découvrir, ou peut-être votre film préféré de Dupieux, un autre film à conseiller? Pendant que vous réfléchissez, je vais peut-être me permettre de recommander Robber, qui est le tout premier Dupieux que j'ai vu. Je l'avais vu à la télé, il était passé sur Canal+, présenté par Mouloud Achour quand il présentait les films sur Canal+ Cinéma, même si ce n'est pas Canal+, tout court. Et c'est un film, pareil, je ne savais pas trop quoi attendre, et j'étais bon, d'accord, c'est l'histoire d'un pneu qui tue. Et je trouve que c'est... Après, c'est peut-être que c'est le film avec lequel j'ai découvert Dupieux, mais c'est un absurde qui est assez constant, un peu comme Le Dain. C'est un absurde... Dès le début, on te dit c'est un pneu qui tue, bah, le pneu tue des gens, jusqu'à qu'à la fin, voilà, y a un petit twist avec d'autres véhicules qui arrivent. Mais je pense que c'est le meilleur film pour découvrir Dupieux, peut-être mon préféré avec réalité.
Ouais, bah moi j'ai regardé Wrong Cops là pour compléter la filmo, et bon, bah, si on aime Dupieux, on aimera Wrong Cops avec ses flics complètement pourris, cette histoire de vente de drogue dans des poissons, enfin bref, du Dupieux quoi.
Wrong Cops, c'est peut-être celui que j'aime le moins en mode sa filmographie, mais je te rejoindrai toi Nicolas sur Rubber à conseiller, et notamment cette scène d'introduction qui pour moi résume peut-être là aussi tous les Dupieux, de te dire en fait la vie est faite de pleine de non-sens, les plus grands films, t'as des scènes qui sont faites de non-sens, donc accepter le non-sens et le fait que parfois il n'y ait pas de raison aux choses et apprécier.
Et c'est... Pardon.
Oh, j'ai pas de soucis. Je vous rejoins sur Rubber, sur le fait que je conseillerais Rubber, et je pense que je conseillerais de regarder la bande-annonce de Mandibule, j'ai regardé pour préparer l'émission, et ça m'a donné envie, enfin vraiment, alors que du coup je suis pas attirée par ce genre de film.
Et pardon, c'est pas de non-sens, mais de no-reason. Aucune raison.
ça résume assez bien son cinéma. Donc signalons qu'il y a Mandibule qui doit sortir, parce qu'il est pas sorti en décembre. Et je pense que Dupieux actuellement c'est le cinéaste le plus productif du cinéma français, parce que là il tourne déjà un autre film qui s'appelle Incroyable mais vrai, qui devait sortir en 2021, avec un casting mais vraiment génial: Benoît Magimel, Léa Drucker, Anaïs de Moustier et Alain Chabat, encore une fois. Donc on se languit de voir ça.
Je suis tellement fan justement de la famille d'acteurs et d'actrices qu'il a réussi à réunir au fur et à mesure de ses films.
C'est ça.
Quand t'as les noms, c'est que des gens géniaux.
Mais je pense qu'on en reparlera dans notre deuxième partie du débat, parce que là, maintenant, c'est l'heure du jeu, habituellement, qui vient à peu près en milieu d'émission, après un magnifique petit jingle.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
On va pouvoir arrêter avec ces jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu, plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours?
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
Et vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris, et nous parlons du film Réalité de Quentin Dupieux. La suite de nos débats sera après cette pause de jeu, et comme d'habitude, c'est Lucas qui s'en occupe.
Oui, et un jeu inédit ce mois-ci, on fait des tests. Si ça marche pas, tant pis, on reviendra sur un blind test le mois prochain. Donc vous avez tous devant vous là un petit bout de papier et un crayon, et j'ai choisi un film sur lequel je vais vous donner 14 indices, par un. Sauf que évidemment je vais partir de l'indice numéro 1 qui sera l'indice le plus difficile, jusqu'à l'indice numéro 14 qui sera le plus facile, c'est quasiment le nom du film. Là. Donc évidemment, vous, le but du jeu, c'est de trouver le film le plus rapidement possible à l'indice le plus difficile. Donc une fois, vous n'avez qu'une tentative bien sûr, une fois que vous pensez avoir trouvé le film, vous le notez sur votre petit bout de papier avec un petit numéro correspondant à l'indice, au numéro de l'indice. Vous pouvez aussi évidemment jouer chez vous, même si vous aurez plus de tentatives. Donc 14 indices, on commence avec le plus dur, puisque qui est au costume pour ce film? Eh ben, c'est Erin Benac. On est enchanté de la rencontrer, je ne sais pas. Donc c'était le premier indice. Le deuxième indice, c'est un film qui dure 95 minutes.
Intéressant.
Commence, voilà, faut mémoriser. Troisième indice. On commence à se faire des indices pas mal, puisque c'est un film américain. Quatrième indice, une petite approximation du budget, puisqu'on est sur du 16 millions de dollars.
Oh. Ça dépend de la sortie, n'oublions pas qu'avec l'inflation, oui, à l'époque, Star Wars a coûté 16 millions de dollars.
C'est vrai, c'est vrai. Cinquième indice, bon, pour l'instant c'est évidemment impossible de trouver, le but c'est aussi de mémoriser tous ces indices. En France, le film a été interdit en salle au moins de 12 ans. Sixième indice. Là, on commence dans les indices pas mal. Il est sorti en 2011. C'est plutôt récent. Et le septième indice nous dit que le Festival de Cannes lui a mis le prix de la mise en scène. Où je vois les grands yeux de Nicolas, là, qui
Mais il a déjà
indice,
écrit.
Il a peut-être une idée. J'ai écrit quelque chose.
Non.
Il faut me le donner hein, quand vous avez.
Donc la meilleure mise en scène.
Prix de la mise en scène, oui. Festival de Cannes, donc en 2011.
16 000... Ah bah oui, je l'ai. C'était lequel quel numéro?
Alors c'était indice numéro 8. Alors là, si tu l'as, bah bravo.
Bah si, 16 millions en plus.
Alors,
j'espère vraiment qu'il va être.
Nicolas vient de me donner son papier.
Prix de la mise en scène en 2011.
Je regarderai ça tout à l'heure.
Cette encyclopédie.
Donc Louis et Adeline, vous êtes toujours en jeu.
Moi j'attends la
14. Et pour le 9e indice, je vais vous donner le nom d'un acteur qui joue dedans. C'est Ron Perlman. Donc Nicolas valide apparemment. Ah une idée du côté d'Adeline.
Bah, je vois l'acteur, on est jamais.
Oui, c'est pas forcément un rôle principal. Hein. Dixième indice, la majeure partie du film se déroule à Los Angeles. Je fais un petit récap, ça se passe à Los Angeles, 2011, et je vois que j'ai oublié un indice qui était avant, mais c'est aussi un acteur. Puisque un autre acteur, c'est Oscar Isaac. Oscar Isaac, Ron Perlman.
2011.
Festival de Cannes, prix de la mise en scène, film américain. Je vais vous donner un autre acteur pour l'indice numéro 11.
Oui.
Je sais quel acteur tu as donné.
C'est Bryan Cranston.
Ok, je pense que j'ai pas.
Ce sont pas forcément les acteurs principaux, hein, vous inquiétez pas. Bon, là, je pense que ça va aller très vite. 12e indice, le titre québécois de ce film, c'est Sans froid.
Oh oh Heureusement que je connais le Québec.
Donc, si tu penses avoir trouvé, c'est numéro 12 pour l'indice.
Merci.
Donc, Louis, il te reste deux indices.
Je suis le cancre de cette émission.
Non, ne t'inquiète pas, là, tu vas trouver au 13e, je pense. Le réalisateur, c'est Nicolas Winding Refn. Et on va arriver au 14e indice. L'acteur principal est Ryan Gosling. Dans un film de Refn qui se passe à Los Angeles.
Mais je l'ai, mais au bout du 14e. Hein.
Alors,
heureusement que je suis là.
Maintenant, je me dis, j'aurais peut-être pu l'avoir un peu plus tôt.
Effectivement, Louis, tu as trouvé la bonne réponse. Je dirai la réponse après. Adeline aussi, au numéro 12. Et nous avons donc eu une petite masterclass de Nicolas qui trouve au 8e indice. Le film étant évidemment Drive de Refn. Avec Gosling.
Évidemment, donc prix de la mise en scène en 2011 à Cannes. Ça aurait pu être en 2011.
Sur cet indice, c'est vrai, c'est bien.
En 2011, je crois qu'il y avait aussi Magnolia, où c'était l'année d'après. Je sais plus si c'était 2011 ou 2012. Il y a aussi The Tree of Life à Cannes. Et donc, un film américain, 16 millions de dollars, c'est le budget le plus haut pour Refn, sachez-le. Peut-être que. Quoique, peut-être maintenant, il a fait sa série To All To Die Young, qu'on adore.
Oui.
Et donc, oui, il y a Bryan Cranston, qui n'était pas encore connu pour Breaking Bad, qui était encore connu pour être le père de Malcolm, évidemment.
Mais
voilà, j'adore Drive, je l'ai vu peut-être 15 fois.
Comme c'est le moment de se la péter, visiblement, Nicolas.
Dis-moi tout.
Sachez que je connais tous les noms de films en traduction québécoise, donc c'est ça qui m'a sauvé. Puisque...
Alors, épate-nous avec Trainspotting.
Ah, le Ferrovipat.
Évidemment.
Ok, bah, je ferai peut-être ce jeu-là un jour.
Et 15, c'est les bagnoles. Voilà. Connaissances qui vous épatent.
Eh bien, merci Lucas pour ce jeu qui était un peu digne du Burger de la Mort de Burger Quiz, parce qu'il fallait retenir tous les indices, etc. Et maintenant qu'on a fini ce jeu, on va pouvoir passer à la deuxième partie du débat, après une musique évidemment signée par Monsieur Oiseau.
Thank you.
Et donc c'était Flatbeat de Monsieur Oiseau, aussi connu sous le nom de Quentin Dupieux. Maintenant qu'on a donné notre avis et notre vision de réalité, peut-être pouvons-nous nous intéresser à d'autres axes du film, et notamment évidemment incontournable Alain Chabat. Donc quel rapport avez-vous avec ce cher Alain Chabat, mes chers amis?
Alors moi c'est un rapport dès l'enfance, puisque j'étais énormément fan de la série télévisée Avez-vous déjà vu ? Qui est une série de dessins animés qu'il avait réalisé et dont il était la voix principale. Et quand j'ai appris en fait que c'était Alain Chabat, je me suis rendu compte que nos relations est datées de bien plus longtemps que ma cinéphilie.
Et toi, Louis ?
Eh bah, ben pareil, mais grâce à mon père qui regardait Les Nuls et qui m'a donné envie de rattraper un peu quelques émissions emblématiques, donc ça remonte aussi.
Bah écoute, moi j'ai pas tant que ça de choses à dire sur Chabat, à part que je l'aime beaucoup, c'est un humour qui me parle. Et t'as cité Burger Quiz tout à l'heure, je suis content parce que c'est quand même une œuvre audiovisuelle à part entière.
Incontournable.
Il se passe beaucoup de choses, qui est excellent. Voilà, bah c'est Chabat quoi, j'aime bien cet humour. Je sais pas, c'est très dur à caractériser, il en fait pas trop, mais c'est toujours très efficace, il sait où se mettre, il sait qu'en parler, il sait quoi dire. Il est très fort Alain.
Et donc Alain Chabat a quand même une assez grande carrière. Et pour ça, je vous ai concocté un tout petit quiz assez rapide, en hommage à sa présentation de plusieurs saisons du Burger Quiz. Donc je vous propose un petit quiz, et il va me falloir dire quelle réponse est la vraie. Alors, Alain Chabat, réponse A, a adapté les dialogues du film culte Wayne's World. Réponse B, il est ami avec l'acteur du Punisher chez Marvel. Réponse C, il a commencé la télévision aux côtés de Nicolas Sirkis, chanteur d'Indochine. Ou réponse D, réponse A, B, C et donc D.
Réponse C.
Réponse C, donc ça sera télévision à côté de Nicolas Sirkis, chanteur d'Indochine.
J'en ai pas idée, mais du coup je veux dire la réponse D.
Ouais, moi aussi.
D'accord, eh ben, évidemment c'était la réponse D, car Alain Chabat a une carrière magnifique.
Et je joue pour l'équipe des maillots.
Donc, désolé,
mais il a présenté la météo avec Nicolas Sirkis.
Exactement, tu as lu le début de la page Wikipédia d'Alain Chabat.
Peut-être que mes connaissances sur Alain Chabat se résument uniquement à sa page Wikipédia, mais bon. Peut-être que je mens depuis le début, j'ai jamais vu, avez-vous déjà vu quand j'étais petite?
Ce serait
pas dans un Dupieux là.
Ce serait honteux. Mais bon, Alain Chabat, c'est aussi un acteur qui est très sympathique. Et donc, pour exposer un peu sa sympathie, sa bonhomie et le fait de pourquoi on l'aime, je vous propose un extrait d'une émission d'Edouard Baird qui passait sur Radio Nova, plus près de toi, je crois, plus près de chez toi.
Au plus près de toi.
Au plus près de toi, où on a tout simplement le grand Alain Chabat qui se réveille avec la douce voix d'Edouard Baird.
Alain, est-ce que vous êtes l'homme qui va vers sa douche sans réfléchir ou qui attend le soir pour ce moment d'hygiène et de rendez-vous avec son corps?
Ah non, non, je vais directement, je vais à la douche à fond, j'adore.
Plutôt on est sur un jet vertical, un jet directionnel,
un jet pluie, un jet pluie, mais tout de même assez soutenu,
plus tropical.
Voilà, plus tropical.
Alain, est-ce qu'on est sur un savon liquide, savon solide ou c'est simplement l'eau et le corps?
Non, savon solide avec des petits grains, celui qui gratte un peu.
Vous vous grattez, vous vous frottez, vous êtes à la main, vous pratiquez le grand de toilette, vous êtes au gant de crin, vous êtes à la brosse. Moi, je ne sais pas, mon vieux, il faut m'aider.
Voilà, donc Alain Chabat dans toute sa splendeur. Donc Lucas, je crois que tu avais une petite anecdote à nous dire.
C'est juste ta question. Elle était bien parce qu'elle montre à quel point il peut avoir une carrière un peu improbable. Il y a notamment un débat entre des gens qui ne savent pas s'il a vraiment joué dans le film d'Alain Corneau qui s'appelle Série Noire, où on voit un mec pendant 2 secondes qui ressemble vraiment beaucoup à Alain Chabat. Et lui dit que c'est pas lui, mais évidemment, plein de gens disent que c'est du foutage de gueule, c'est lui. Et ça me fait penser, pour revenir à Dupieux, à une anecdote. C'est qu'on était une fois en boîte, Nicolas. Et Nicolas vient me susurrer dans l'oreille, regarde, il y a Quentin Dupieux là-bas. Et je regarde, et effectivement, pour moi, c'était Quentin Dupieux. Donc on va le voir, salut Quentin, on adore tes films. Et il dit, non, mais c'est pas moi, les gars. Et on est resté là, comme ça, à parler.
Lucas, tu étais, mais non, tu es Quentin Dupieux.
Oui, et pendant 1 minute, il y a eu un dialogue absolument incroyable. On était persuadés que c'était lui, ou il disait que c'était pas lui. Moi, je suis toujours persuadé que c'était lui, mais on ne saura jamais. Voilà.
C'est très drôle parce que moi, j'étais dans cette boîte aussi. Et ils sont venus après me voir pour me dire, on a peut-être vu.
On a peut-être vu Quentin Dupieux.
C'était lui, c'est sûr.
Mais je pense que c'est la rencontre la plus Dupieux qu'on peut avoir.
Exactement, c'est ça.
Et comment rebondir après ça?
Bah, peut-être que justement, dans sa carrière hétéroclite, il a aussi fait une voix française. Je tenais quand même à le souligner, celle de Shrek.
Oui.
On parlait de Chabat et de notre enfance. Dans les années 2000, c'est quand même,
c'est quand même Shrek et des films comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui pour moi est un génie du cinéma français, vraiment.
C'est ça qui est épatant avec Chabat, c'est que autant en acteur qu'en réalisateur, c'est il ça. Est très fort. Et en fait,
je préfère peut-être même à l'écriture et à la réalisation qu'en tant qu'acteur.
Bah, je trouve que contrairement à Mouret, donc, avec qui on a introduit l'émission, c'est pas un réalisateur qui s'exprime énormément dans ses films en tant qu'acteur. Enfin, par exemple, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, il a un rôle qui est secondaire.
C'est celui de César.
Oui, mais qui n'est pas Astérix, qui n'est pas Obélix. Dans Re, il joue le grand méchant, mais pour autant, c'est pas un grand méchant qui est énormément présent, on va dire. Et en fait, à chaque fois, il est très... Et je pense que l'archive que tu as utilisée l'exprime bien. Il est très humble et très... toujours à la limite de la timidité, je trouve. Et en fait, c'est ça qui est très agréable dans son jeu et autant dans sa réalisation. C'est que c'est quelque chose de très simple, avec des petites... C'est comme si c'était un marionnettiste qui tirait juste des tout petits fils qui marchent vraiment très très bien et qui font rire à tous les coups. En fait, c'est vraiment un génie de l'humour dans une manière très simple.
Et justement, c'est un humour qui est souvent absurde, parce que dans une des interviews que j'ai vues là en préparant l'émission, il dit « Il y a des trucs qui me font marrer parfois et je ne sais même pas pourquoi. » Et donc il l'aimait, et j'ai le même rapport à l'humour que lui, c'est pour ça que ça marche.
Et si vous devez retenir, est-ce que vous avez vraiment une pépite de Alain Chabat qui vous vient à l'esprit?
Plaisir coupable. Je pense que personne ne me suivra sur cette recommandation, mais regardez ce film exceptionnel qui s'appelle Chouchou, avec Gad Elmaleh. Je me suis rappelé qu'il jouait dedans, et que vraiment... j'ai failli commencer quand tu nous as parlé de leur première expérience avec Alain Chabat, mais du coup, il joue dans ce film qui s'appelle Chouchou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, il joue. Gad Elmaleh est un immigré qui arrive en France et qui donc a une passion, c'est se travestir. Et en fait, il tombe amoureux d'un riche héritier qui est Alain Chabat. Et voilà, et tout se passe autour d'un amour commun pour les Titi.
Toi, Louis, tu parlais des nuls. Est-ce que tu as vu et apprécié La Cité de la Peur?
Et du coup, oui. Oui, avec Dominique Ferrugia, Chantal Lobby, donc justement, ils sont trois membres des quatre des nuls, et j'ai adoré, comme je disais, hein, moi je suis très sensible à son humour, à Chabat, c'est le premier film qu'il a écrit et réalisé, dans lequel il joue aussi, puis des répliques cultes, et puis on a envie de danser la carioca après l'avoir vu. Hein.
D'ailleurs, je crois, encore une anecdote, mais Lucas, je crois qu'ensemble nous avons vu la carioca 25 ans plus tard sur une plage. Par Alain Chabat et Gérard Darmon.
Mais vous avez eu mille vies.
On a vu mille vies, oui, en effet.
Vous êtes toujours dans les bons coups. Est-ce que tu étais là quand Nicolas Winding Refn a reçu sa palme d'or pour le meilleur scénario?
Non, quand j'étais un peu jeune, mais je l'ai vu, Nicolas Winding Refn, pas plus tard qu'il y a 2 ans, en expliquant à toute une salle ébahie que le cinéma était mort et que sa femme était la fille cachée de Fritz Lang.
Est-ce qu'on peut dire que tu as roulé ta bosse en termes de cinéphilie,
oui,
Nicolas?
Oui, on appelle d'ailleurs roule ta bille.
Oh.
Donc Chabat, et toi Lucas, pardon, est-ce que tu as un souvenir?
Quoi d'autre que Didier?
Le ping-pong avec Bakri, on en parlait dans la dernière émission.
Je sais pas si ping-pong c'est le...
C'est un petit ping-pong, il se renvoie la balle, c'est plus lui vu que c'est un chien qui renvoie la balle, mais il y a un bon jeu entre les deux. Quoi.
C'est vrai.
Moi, le dernier film dans lequel j'ai découvert Alain Chabat, c'était dans Mes Amis, qui est le tout premier film de Michel Hazanavicius. Transition tout trouvé, car dans Didier, sur son maillot, il y a écrit Hazanavicius, car à l'époque, Hazanavicius était un ami de Chabat, mais il n'était pas connu. Et donc, dans Mes Amis, Chabat, c'est juste un écrivain qui reste chez lui, qui a un peu la flemme, et qui est de temps en temps au téléphone, c'est un personnage secondaire, voire tertiaire, et qui de temps en temps est au téléphone avec Yvan Attal, qui est un réalisateur, et on le voit dans son lit, on le voit aux toilettes aussi, avec des petites blagues évidemment sur ce qui peut tomber dans les toilettes, hein. Excuse-moi, j'étais au téléphone avec ma sœur, etc. Et donc c'est un film que je vous recommande, qui est très difficilement trouvable, que j'avais vu sur MyCanal, et c'est un film assez expérimental, ça fait très premier film, mais c'est très intéressant, Mes Amis de Hazanavicius.
Et peut-être pour conclure, je viens de repenser à ça, je pense que Chabat aussi, en termes d'expérience, pour moi, il a un côté assez exceptionnel, parce qu'en fait, bon, vous le savez, moi je suis plus fétichiste du cinéma en tant que lieu qu'en tant que film parfois. Et en fait, ma première expérience de cinéma vraiment conscientisée, c'était quand j'étais allée voir Prête-moi ta main, donc avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Et en fait, c'est la première fois où j'étais allée au cinéma que je n'ai pas fini mon pop-corn. Et j'étais allée avec ma grand-mère qui m'a dit « Quand un film est bien, on n'a plus le temps de penser à manger son pop-corn. » Et du coup, je pense que c'était en partie grâce à Alain Chabat.
Eh bien, c'est encore une fois sur les conseils de Rosemary Ballès.
Rosemary Ballès.
Que l'on va finir ce débat. Et avant de conclure l'émission et de passer au tirage au sort, est-ce que vous avez des petites recommandations pour nos auditeurs, peut-être de films que vous avez vus récemment ou pas, ou de livres ? Donc Lucas, je te laisse commencer.
Oui, moi c'est pas un film, mais j'adore l'émission documentaire Striptease. Et bon, vous pouvez trouver plein d'épisodes sur YouTube. Et il y a un épisode sur lequel je pète un câble avec un pote, c'est qui s'appelle 600 grammes de hachis, qui est sur un jeune producteur qui tente de produire son premier film. Sauf que ce mec-là est complètement à côté de la plaque, il veut 13 000 figurants, il veut Sean Connery, enfin bref. Et c'est hyper, c'est à la fois hyper touchant, parce que le mec il est attachant, mais en même temps c'est un peu un mythomane, voilà. Et c'est aussi triste, parce que tu sens qu'il fonce dans le mur et qu'il va jamais y arriver, quoi. Et t'as des scènes mais, d'anthologie avec son grand-père, voilà, ça dure 50 minutes, 600 grammes de hachis, il est sur YouTube. Si vous aimez Striptease, là, il y a toute l'essence de Striptease dedans.
Il y a aussi Docteur Lulu que tu m'as recommandé, qui est un grand classique.
C'est mon préféré, Docteur Lulu, c'est vrai.
America, pour toujours.
Oui, oui, oui.
C'est mon préféré.
Georges Perrier.
Et toi, Lynn, que vas-tu recommander ?
Oh, ben, du coup, pour poursuivre un peu le documentaire, enfin, le côté documentaire de Striptease, moi, j'ai proposé un documentaire qui, je pense, est toujours sur Arte, qui s'appelle Les Bonnes Conditions, auquel j'ai repensé dernièrement. En fait, c'est un documentaire face caméra d'étudiants qu'on suit du lycée, de leur terminale, jusqu'à à peu près leurs 30 ans. Et en fait, on va jamais les suivre, on va juste, chaque année, ils vont revenir devant cette caméra et dire, ben voilà à quel point j'en suis de ma vie. Et en fait, c'est assez intéressant sur le déterminisme qu'on peut avoir quand on vient d'un lycée parisien bien classé, et qu'est-ce qu'on devient quand on est d'un certain milieu à un certain endroit.
Encore une fois, ça rejoint un peu le adolescent de Sébastien Lipschitz.
Mmh. Exactement.
Toi, Louis, une recommandation.
Moi aussi, ça vient d'Arte. On a commencé l'émission avec Arte, on l'a fini avec Arte. Et moi, c'est la série En Thérapie, réalisée par Olivier Nakache et Eric Toledano, que je regarde depuis donc quelques semaines maintenant, et que je trouve remarquablement bien écrite. On suit des séances, en fait, donc post-Bataclan, ça se passe en 2015, des séances chez un psychanalyste. Et en fait, comme ce sont des séances, ça tient sur quasiment du champ contre champ, enfin il y a très peu de plans différents, et donc tout tient sur à la fois le jeu d'acteur et la force des dialogues. Et pour le jeu d'acteur, il y a Frédéric Pierrot qui est juste remarquable, et les dialogues aussi qui sont très très bien écrits, très bien construits, donc allez la regarder, elle est disponible sur Arte, et allez-y, quoi, foncez. Et toi Nico ?
Moi ça sera un film qui est trouvable seulement en vidéo, en Blu-ray et en DVD. Ça s'appelle I comme Icar de Henri Verneuil, donc grand cinéaste qui est encore un peu sous-estimé, je trouve. On se rend pas encore compte de l'impact qu'il a eu sur le cinéma, tous les grands films qu'il a fait. Et donc I comme Icar, c'est sorti en 79, et c'est un thriller paranoïaque avec Yves Montand. Ça parle de l'affaire JFK sans en parler, car ça se passe dans un pays imaginaire, il y a des drapeaux plus ou moins américains, mais c'est tourné, tous les gens parlent français, et c'est tourné à la Défense. Et je trouve que c'est passionnant, que c'est un lieu qui n'est pas encore assez exploré dans le cinéma, la Défense. Et ça a vraiment des allures de métropole américaine, en fait. Et dedans, donc, on a Yves Montand qui est brillant, qui est seul contre tous, qui essaie de démêler un complot de la CIA pour assassiner un président. Et c'est nihiliste, c'est génial, c'est réalisé vraiment au cordeau. C'est un très très grand film, et évidemment, il y a une musique d'Ennio Morricone, donc on ne peut que le recommander. Et vient maintenant l'heure du tirage au sort. Donc juste pour rappeler, peut-être pour un peu de suspense, les derniers films qu'on avait mis et qui n'ont pas été tirés au sort, donc Réalité avait été tiré au sort, les couteaux volants, les poignards volants.
Le secret des poignards volants.
Le secret des poignards volants de Hou Hsiao-hsien n'avait pas été tiré au sort. Moi j'avais mis...
Il n'a pas retenu le titre, mais il a parfaitement le nom du réalisateur.
Je ne sais plus ce que j'avais mis, je crois 5 000 $ au soleil de Henri Verneuil. Et toi Lucas, tu avais mis...
J'avais mis Plein Soleil.
C'est ça. Et donc maintenant, c'est encore une fois Victor qui va tirer le papier au sort.
Et aujourd'hui, mon cœur s'est tourné vers ce petit papier sur lequel est imprimée une demi-tête de Nicolas.
Oh, nous.
Alors, ce sera le cercle rouge.
Oui, et donc c'est...
J'en enfin... passe la main.
Merci, Louis,
de long arrive, finalement.
Avoir été tiré au sort. Donc oui, le cercle rouge arrive, pour teaser un peu, c'est un film donc, de Jean-Pierre Melville. Avec, excusez du peu, là je parlais d'Yves Montand, il y a Yves Montand dans le casting. Il y a Alain Delon, il y a Bourville. De l'un de ses derniers rôles et un de ses seuls rôles dramatiques, qui est vraiment incroyable. Et il n'y a pas de musique d'Ennio Morricone, je crois que c'est Éric de Marsan. Mais je suis content de. Je sais pas, est-ce que vous l'avez vu, oui. Le Cercle Rouge ?
Pas du tout.
Sûr.
Et non.
Donc on a un oui du côté du cas, deux noms, Louis Adeline.
C'est une bonne occasion de le voir.
Est-ce que tu es content de le revoir, Lucas ?
Très content. On va revoir Delon moustachu et une scène de braquage d'une demi-heure. Quoi d'autre ?
Quoi d'autre? Justement, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez mis comme papier? Donc, Adeline, je commence avec toi.
Alors, moi, j'avais mis Priscilla, folle du désert. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film.
C'est de.
De Elliot Scott. Non. Enfin, ou Scott Elliot. Voilà, entre les deux. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film. Alors,
C'est Stéphane Elliot.
Stéphane Elliot, merci beaucoup. Moi, les réalisateurs, c'est pas mon. C'est, je suis pas comme Nicolas, c'est pas mon truc. Mais c'est un film néo-zélandais.
J'ai cru que c'était un néo-zélandais.
Non, c'est un film qui se passe en Australie, d'un réalisateur néo-zélandais, et en fait, qui parle de trois transsexuels qui quittent Sydney pour faire un road trip dans une camionnette. Et c'est avec, non moins, l'acteur qui joue Monsieur Smith dans Matrix.
Oh, Hugo Weaving.
Voilà. Et, qui joue, du coup, un des principaux transsexuels dans ce film.
Toi, Louis, qu'avais-tu tiré, qui n'a, pour une fois, pas été tiré au sort?
Eh oui. Et plus classiquement, j'avais mis Le Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouzot.
Ah bah oui.
Ça faisait un petit clin d'œil aussi à...
À Montant, encore une fois.
Ouais.
Voilà. Et toi, Lucas, grand fan de Clouzot devant l'Éternel?
Oh oui, bah rien à voir, j'avais mis Borat. Et je le remettrai jusqu'à ce qu'il se passe, parce que je veux absolument parler de Borat.
Ah oui. Et j'espère le tirer parce qu'il est incroyable.
Ah, oui. Merci.
Borat 1 ou 2?
On parlera tout à l'heure.
On s'appelle. Ouais.
Et donc vous appellerez, vous aurez temps de vous appeler car c'est déjà la fin de l'émission. Donc merci encore une fois d'avoir écouté la séance du dimanche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre Vitamine Ciné sur Instagram, ni à vous abonner au podcast sur Spotify et toutes les plateformes disciples. D'ici là, on se donne rendez-vous le 4 avril prochain pour une émission consacrée au Cercle Rouge. À très vite.